Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes lignes de l'astrologie d'octobre avec la saison des éclipses. Et oui, on est rendu là. Une éclipse solaire pour la nouvelle lune en balance le 14 octobre et une éclipse lunaire pour la pleine lune en taureau le 28 octobre. C'est certain que cette saison-là des éclipses va donner beaucoup le ton au mois qu'on s'apprête à traverser tous ensemble. Et c'est intéressant de constater que la pleine lune en taureau du 28 octobre, la pleine lune éclipse en taureau, ça tombe le week-end de la célébration de l'Halloween. Ça va être intéressant de regarder ça, de voir quel type de festivités on va avoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'automne s'annonce chaud à plein d'égards, ça c'est sûr. On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez posées via Instagram. On va faire aussi le tour de deux chartes de personnalités connues. Je n'avais pas eu le temps, j'avais complètement oublié de le faire la dernière fois, mais j'aime bien faire ça. Alors, on va garder un temps pour ça. Et on va finir avec une petite chronique inspirée de la saison de la balance. Et en fait, tout l'épisode va être d'une certaine façon dédié à la question de l'identité de genre ou au genre tout court. C'est tout à fait dans la symbolique de l'axe Bélier-Balance. C'est la saison de la balance, mais c'est aussi les nœuds nord, nœuds sud qui sont activés présentement. Mais ça fait partie aussi de l'ère d'air dans laquelle nous allons entrer de plus en plus, de débats d'idées et de diversité. Mais effectivement, toute la question de l'identité de genre, c'était un sujet chaud ici au Québec en septembre. On se rappelle hein, les histoires de toilettes non genrées dans les écoles secondaires, tout ça, et ça continue d'être un sujet chaud ici comme ailleurs d'ailleurs. Et ça a même donné lieu à des manifestations, pratiquement des affrontements à Montréal le 20 septembre dernier, alors qu'il y avait des gens qui défendaient les droits de la communauté LGBTQ+, et évidemment, ben les autres de l'autre côté qui s'opposent et défendent entre guillemets, le droit parental. Laissez nos enfants tranquilles, qui disait. Et là là, on va revenir là-dessus. Et je vous le dis d'emblée, je ne suis pas une spécialiste de la question. Vraiment pas, là. C'est pas ça que j'avance du tout. Mais j'ai quand même eu la chance de côtoyer dans ma vie, dans les dernières années, de jeunes personnes qui ont fait leur transition. Et de côtoyer aussi une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui, elle, a fait sa transition dans sa cinquantaine. Alors, je vous reviens là-dessus. Mais on va commencer par l'état des choses, un petit retour sur l'astro du mois de septembre. Bye bye, emo summer. L'automne est maintenant bien installé. Comment a été votre saison de la Vierge? Votre entrée en plein rétrograde de Mercure en Vierge, pas trop pire, j'espère. Un rétrograde de Mercure en Vierge, personnellement, je suis à l'aise avec ça, peut-être parce que j'ai la Lune en Vierge, vous me direz. Mais comme tout rétrograde, ça reste un couteau à deux tranchants. D'un côté, la Vierge adore l'hyper-organisation. Alors, un rétrograde de Mercure, c'est parfait. On repense nos plans, on repense nos habitudes de vie, nos communications, notre approche. C'est déjà naturel dans la saison de la Vierge qu'on fasse ça. Je rencontrais en consultation une étudiante, puis elle me disait, je ne portais pas attention à ça avant, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que oh, j'ai besoin de tout réorganiser, mes tiroirs, mes trucs, mes livres. Et là, je réalise que je suis dans la saison de la Vierge et ça me frappe, c'est fou. Effectivement, c'est comme ça. Tu sais, quand on commence à porter attention aux différentes saisons astrologiques, on réalise comment, oups, on se laisse porter par un genre de courant. Donc, c'est naturel pendant la saison de la Vierge qu'on, déjà là, qu'on se réorganise. Mais avec un Mercure rétrograde en Vierge, bien là, c'est comme multiplié ou décuplé, tu sais. Mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'on peut devenir fou un petit peu. On peut obséder avec les détails, être incapable de passer à autre chose, de lâcher prise tant que c'est pas parfaitement à notre goût ou parfaitement parfait. On peut même, sous la Vierge, se vérifier, se contre-vérifier bien, tellement de fois qu'on en perd notre latin. Bref, j'espère que cette période-là vous a permis un retour à de saines habitudes dans votre vie, mais aussi un bon ménage. De qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon ou qui est plus bon pour vous aussi. Sans compter qu'on était aussi en rétrograde de Vénus en Lion, donc la tête avec Mercure et le cœur avec Vénus, méchant ménage qui aura commencé au début de l'été pour se terminer là, en ce début d'octobre. Mercure est sorti de sa zone de post-rétrograde le 30 septembre et Vénus en sort le 7. J'ai dû dire à tout le monde en consultation cette année, là, même déjà à partir du mois de janvier, si tu es en relation, que c'est pas clair, que tu sais pas trop si tu vas partir ou rester, ou que c'est la personne avec qui tu es qui se pose des questions, que tu es peut-être plus sûr de ta relation, ou même que tu réévalues ta vie au complet, il y avait beaucoup de réévaluations en cours. Réévaluer ses finances, un autre sujet pas facile, en temps d'inflation ou de crise de logement, tu sais. Mon conseil, c'était attends au mois d'octobre. Attends la fin des rétrogrades, surtout celui de Vénus, pour avoir l'heure juste ou au moins pour y voir un peu plus clair. Parce que pour tous, c'était vraiment, principalement le rétrograde de Vénus en Lion, une réévaluation de la valeur qu'on s'accorde. Toutes les questions d'estime personnelle, surtout à l'heure des médias sociaux où est-ce qu'on peut trop facilement se comparer, se diminuer ou peu importe, c'était l'occasion de shiner, mais aussi de regarder notre shadow, retourner à l'intérieur de nous, contempler la nuit, contempler nos zones d'ombre. C'est en changeant la vision qu'on a de nous-mêmes, en prenant soin de nous, en prenant soin de se guérir, qu'on shine, qu'on change le monde, une personne à la fois. L'invitation, c'était de reconnecter avec notre cœur, notre courage, notre foi en nous-mêmes. Un rappel que l'amour de soi commence avec soi pour être bien avec les autres. Une opportunité de renouveler notre propre relation à nous-mêmes, à se traiter avec un petit peu plus de compassion et d'empathie. C'était vraiment un rappel de l'archétype du lion qui nous demande de répondre présent à la vie, à célébrer la vie, dans le fond, à se joindre à la folle danse de l'existence, de danser furieusement en étant radicalement nous-mêmes. Bref, si toi, tu t'es approché un peu de ça, rien qu'un peu, que tu as eu ces réflexions-là, puis peut-être que tu t'en es pas approché, mais peut-être que tu as eu les réflexions, bien, c'est parfait. C'est déjà bon, tu sais. Alors, c'était vraiment un rétrograde de Vénus super important dans le signe du lion et les points de Vénus se répètent aux 8 ans. Alors, elle va retourner en lion en 2031, elle était là en 2015. C'est à voir justement les patterns qui se répètent. Moi, je vous invite, si vous faites du journaling, ça vaut la peine de peut-être faire un petit bilan de votre été 2023 puis écrire « Rétrograde Vénus en Lion » comme référence pour le futur, voir c'est quoi les thèmes. Aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues au recueillement collectif de la Vallée des sorcières pour la pleine lune en poisson à la fin août. C'est un événement qui a été organisé vraiment à dernière minute par Ingrid de Witch Needle et moi-même au Parc Maisonneuve à Montréal. Sur un coup de cœur comme ça, on s'est dit on fait quelque chose, on se regroupe, on fait quelque chose pour le collectif. Ça suivait une initiative qui avait commencé pendant la période de la COVID, qui avait été initiée par Vanessa DL et auquel j'avais participé à quelques reprises. Et ça nous tentait comme ça de refaire l'expérience. Quand est-ce qu'ils vont en avoir un autre? J'ai aucune idée. On a été vraiment surprise par le nombre de personnes. Ça, c'est sûr et certain. Et on ne pouvait pas avoir trop de monde non plus parce que comme pas de micro, pas rien, il fallait être sûr d'être entendu. Et déjà là, avec les gens qui étaient là, c'était peut-être un peu pas évident pour tout le monde. Mais au moins, on a pu se rassembler, avoir un moment de recueillement ensemble et c'est ça qui est le plus important au final. D'ailleurs, on a eu des alliés avec nous qui nous ont donné un coup de main. Je les remercie encore. Janie, Juliève, Vanessa DL aussi qui est venue dire un mot. Et le plus cool de tout, c'était vraiment d'être capable de vous rencontrer en vrai, plein de personnes pour qui j'avais fait des consultations ou des gens que j'ai peut-être jamais croisés, mais je sais que vous m'écoutez puis que on a pu échanger tout ça. C'était vraiment génial pour ça. Alors, on va sûrement remettre ça à un moment donné ou avec différentes consoeurs, tout ça. Donc, à suivre. Maintenant, regardons l'astro d'octobre. Nous commençons le mois d'octobre avec la saison de la balance. On est dans une énergie cardinale dans l'élément de l'air. Nous allons finir le mois dans la saison du scorpion, dans une énergie fixe dans l'élément de l'eau. Comme je disais au début, c'est sûr que qu'est-ce qui va donner le ton beaucoup au mois d'octobre, c'est la saison des éclipses. Mais c'est quand même important de noter que maintenant, Mercure et Vénus sont directs, vont beaucoup plus vite. Alors, il y a vraiment quand même une énergie qui va de l'avant. On commence le mois avec 6 planètes rétrogrades. On a Pluton qui va passer direct pendant le mois. Alors, on va passer à 5 planètes rétrogrades. Donc, tranquillement, mais sûrement, il y a vraiment comme une traction qui nous amène vers l'avant et que justement, toutes les réflexions qu'on a eues, ben là, c'est le temps de passer à l'action, c'est le temps de les mettre en action. Il faut dire aussi qu'on a terminé le mois de septembre avec une pleine lune en bélier, doublée du dernier carré de Vénus à Uranus. Ça faisait partie aussi beaucoup de la signature du rétrograde de Vénus, comment justement ces moments-là où est-ce que Vénus avait une discussion, une conversation avec Uranus, comment c'était des points importants justement pour être radicalement nous-mêmes, de se permettre de s'exprimer ou d'exprimer notre personnalité différemment, mais aussi justement en termes de relation, de dire « OK, je peux faire différent dans ma relation » ou « Je peux juste dire comme non, c'est terminé pour moi cette relation-là et j'ai besoin d'autre chose. » et où je ne suis plus la même personne, fait que ça ne marche plus, tout ça. Et en plus, renforcé par la pleine lune en bélier qui nous disait vraiment « Hey, je suis, j'existe, je suis là, moi aussi c'est important, qu'est-ce que j'ai à dire, moi aussi c'est important, ce que je ressens, puis mes besoins. » Et là, c'est ça, le comment je balance ça avec le signe de la balance. Donc, une fin de mois en septembre qui était quand même une signature très, très, très importante et ça lance le mois d'octobre. Si on regarde la première semaine d'octobre, du 1er au 7, les premiers jours de cette semaine-là, autour du 2 et du 3, c'est quand même pas si mal. On a Mercure qui oppose Neptune, Mercure en Vierge. C'est sûr que Mercure veut vraiment de la bonne information, puis il veut savoir où est-ce qu'il s'en va, mais il oppose Neptune qui est en Poisson, qui est vraiment non. Ben oui, mais relâche, puis commande, c'est pas grave, puis regarde le big picture, là, comme recul. Des fois, on a le nez tellement collé sur l'arbre, on ne voit plus notre forêt. Donc, Mercure qui oppose Neptune, c'est un peu ça. C'est comme prendre un peu de recul. Et en même temps, Mercure, autour de ces dates-là, il fait un aspect positif, un trigone à Pluton qui est en Capricorne. Alors, vraiment, l'énergie dans les signes de terre qui fonctionnent très bien ensemble, ça permet peut-être d'éclaircir certaines choses ou d'approfondir certaines choses. Fait que c'est quand même une bonne signature, je trouve. On a aussi Vénus autour du 2 et du 3 qui fait un aspect positif au nœud nord. En résumé, on pourrait dire que le début d'octobre, OK, je garde mon mental ouvert. Tu sais, je suis ouverte à différentes possibilités. Je me permets d'approfondir peut-être certaines idées. Puis en même temps, ben j'ai peut-être, vu que je suis plus connectée sur qui je suis, sur ma valeur avec Vénus en Lion, tout le travail, est-ce que je suis capable de l'affirmer un peu plus ou de pousser mes réflexions par rapport à ça? Comment je peux y arriver? Comment je peux prendre ma place? Donc, il y a un peu de cette énergie-là. Ensuite, on a Mercure qui entre en balance le 4. Alors, Mercure, nos communications, notre mental, tout ça qui rentre en balance, le signe des relations, de la justice, de l'équité, de l'égalité, tout ça. Donc, on parle justement de la Vierge, quelque chose d'efficacité à « OK, mais comment je peux amener ça dans mes relations? Comment je peux améliorer mes relations? Comment je peux être un petit peu plus diplomate? » Puis ça va faire du bien parce que la journée même, Mars, notre guerrier, oppose le nœud nord en bélier. Donc, ça va être très bien que pour cette période-là, Mercure soit entré en balance pour que notre Mars soit capable justement de prendre sa place, mais quand même garder l'ouverture puisqu'il est en balance d'écouter l'autre. Mais ça pourrait amener quand même un peu de discussion tendue. Mais étant donné que Mercure est en balance, c'est pas si mal. Donc, la première semaine, c'est quand même assez constructif. La deuxième aussi, vous allez vraiment sentir comme une petite escalade au fur et à mesure qu'on avance, là. Mais on part plein de bonnes intentions, ça c'est sûr. Dans la deuxième semaine, du 8 au 14, le 8 octobre, on a Vénus qui entre en Vierge. Après pratiquement 5 mois en Lion, là, elle rentre en Vierge. C'est comme un petit peu plus spécifique, c'est un peu plus « j'aime que les choses se déroulent d'une certaine façon ». Justement, qu'est-ce qui est bon pour moi de qu'est-ce qui ne l'est pas? Où est-ce que je me sens bien? Dans le fond, est-ce que là, je trouve plus un point d'ancrage dans la Vierge? Hein? C'est plus terre à terre. Comme je disais, Vénus est en chute quand elle est en Vierge, donc ce n'est pas son endroit nécessairement préféré, mais elle entre vraiment plus dans son sens du service et vraiment de « get shit done ». Donc, c'est sûr qu'on va avoir à cœur de régler des affaires, pas laisser traîner des affaires et tout ça. Puis là, ben, on est dans la saison de la balance. Alors, la balance, elle est gouvernée par Vénus. Fait que c'est sûr que tout ça va prendre un ton relationnel. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, conseil, là, essayez de ne pas micromanager les gens que vous aimez. Essayez d'être un petit peu plus dans le laisser-vivre. Ça va être super important, toute cette période-là, où est-ce que Vénus va être en Vierge. Donc, agree to disagree, vivre ensemble, vivre et laisser vivre. D'autant plus que la journée même, Mars, qui est aussi en balance dans les derniers degrés, va faire un carré à Pluton. Mars en balance qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour maintenir la bonne entente. Puis là, ben, j'ai comme quelqu'un au-dessus de ma tête qui impose un peu son pouvoir, tout ça. Alors là, c'est sûr qu'autour de tout ça, ça ne sera peut-être pas évident. C'est peut-être le moment là, autour du 8-9 là, où est-ce que c'est un petit peu plus tendu. Et en plus, le 10, ben justement, Pluton passe direct en Capricorne. Alors là, il se prépare graduellement à réintégrer le signe du Verseau. Il va aller remettre là, les pieds en Capricorne, mais tellement pas longtemps, pour finalement, en 2024, s'installer définitivement pour les prochains 20 ans en Verseau. Mais ça ajoute un poids, justement, à ce carré-là entre Mars et Pluton, Pluton qui est à 27 degrés. Donc, s'il y a de la tension, ça va être autour de ça. Mais en même temps, je pense qu'on va peut-être aussi avoir de l'information, comprendre des choses. Pluton va peut-être nous amener quelques révélations, justement, qui vont nous permettre d'avancer. Mais oui, il y a de la tension autour de cette date-là. Le 12, on a Mars qui entre en Scorpion. Et Mars gouverne le Scorpion, gouverne le Bélier et le Scorpion. Alors là, il est très heureux. Il va aller approfondir. Après avoir fait de la diplomatie en balance, là, ça va être comme, « Hey, garde, là, je t'ai donné toutes les chances, là, mais là, je t'en ai. Là. Si ça ne fait pas, on coupe. » là. Ou sinon, Mars en Scorpion, c'est aussi, « Je vais me battre jusqu'à la mort pour toi. » Puis là, c'est comme, « Ah, tu sais, fusionnel à fond. » Mais ultimement, Mars en Scorpion, c'est vraiment passer à l'action puis pas avoir peur d'aller dans les profondeurs puis de régler les affaires. C'est très ninja, là. J'ai tout le temps la vision de ninja qui apparaît dans la nuit, mais tu le vois pas. C'est quasiment comme une ombre qui se promène là, puis qui est très efficace pour régler des choses dans l'ombre un peu. Alors, Mars en Scorpion, ça aussi, ça va être une signature importante. Et aussitôt qu'il rentre en Scorpion, ben il fait un aspect positif à Saturne en Poisson. Saturne qui est encore rétrograde et qui est revenu dans les premiers degrés du Poisson. Donc ça aussi, pour Mars, c'est bien. Là. C'est intéressant parce que ça nous permet de peut-être de structurer ou de mettre des structures autour de choses qu'on essaye d'implanter. Alors ça c'est bien. Et les deux dernières semaines d'octobre, alors là, c'est là que ça se corse parce que on est au cœur des éclipses. Donc, comme je vous dis, c'est le mois, là, plus qu'on avance, plus qu'on approche des éclipses, et plus que c'est comme une escalade, surtout avec Mars en Scorpion là, qui est full comme yeah! qui est prêt à foncer dans le tas, là, puis c'est comme je disais là, un ninja que tu ne vois pas arriver, mais que pioum! Plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on avance en octobre, Mars devient très fort parce qu'il est chez lui en Scorpion, il gouverne le nœud nord. Où est-ce que des éclipses vont se passer? Alors, c'est très, très, très combatif. C'est super intéressant parce qu'ici au Québec, là, bon, on ne sait pas est-ce qu'il va y avoir une grève généralisée des syndicats ou tout ça, mais moi, je vous garantis que Ça va chauffer, hein. C'est sûr. Les gens vont vouloir se battre très, très fort pour leurs droits, puis ça va faire des contents, des mécontents. Tout le monde va s'exprimer, tout le monde, tu sais, tout le monde va parler fort. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de ça dans l'air, là. Il y a vraiment comme un esprit très fort combatif pour une saison de la balance. C'est ça qui est particulier, tu sais, où est-ce que la balance qui favorise l'harmonie et tout. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir est-ce qu'on va être capable de faire preuve de courtoisie un peu. J'en doute. Donc, vraiment, qui fait le pont entre la deuxième et la troisième semaine d'octobre. On a le 14, c'est un dimanche, la nouvelle éclipse solaire en balance, 21 degrés 7 minutes à 8h, à 20h08, heure de l'Est. Bien, premièrement, les éclipses, on s'entend, là, c'est déjà une énergie un peu de pleine lune, tu sais. Que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, on est déjà dans une énergie un petit peu plus effervescente, un petit peu plus imprévisible, c'est très uranien d'une certaine façon. C'est vraiment une zone dans le temps où est-ce qu'il y a beaucoup d'instabilité dans l'air et il peut arriver quelque chose autour de l'éclipse. Puis finalement, deux semaines plus tard, quand c'est la deuxième éclipse, bien là, c'est plus ça du tout. Puis là, il faut s'ajuster. Alors, c'est de rester flexible, hein. C'est super important dans la période des éclipses, pas sauter trop vite aux conclusions, malgré que les événements qui nous arrivent peuvent être comme très forts et très prenants et comme très surprenants et là comme « Oh my God! » Tu sais, c'est certain qu'on a une tendance à réagir quand notre monde nous saute au visage un peu, mais c'est ça, vous le savez, c'est pour ça qu'on en parle, ça sert à ça l'astrologie, de dire « Ok, je sais c'est des éclipses, je vais pas capoter, je vais attendre un peu. » Une nouvelle lune, nouveau commencement, nouveau cycle, début de cycle. Et là, on a toute qu'une signature parce qu'on a justement Soleil-Lune à 21 degrés. On a Mercure qui n'est pas loin à 17, le nœud sud à 24. Et par extension, on a aussi Mars qui est dans les premiers degrés du Scorpion. Alors lui aussi, là, il fait partie de la signature. De l'autre côté, en face, on a Chiron et le nœud nord, évidemment. D'ailleurs, Chiron en Bélier, on ne peut pas le négliger. Il fait partie de toute cette histoire-là qui est en train de se bâtir autour du signe du Bélier. Où est-ce que le Bélier est dans votre charte? Ça devient un endroit très, très, très important cette année. Quelle maison le Bélier occupe? L'impression que ça donne, c'est qu'autour de tous nos conflits, puis nos confrontations, puis notre incapacité à s'entendre, c'est comme si on est destiné à guérir quelque chose au travers de ça. À trouver un nouveau point d'équilibre, je pense, autant personnel que dans la société, tu sais. Puis là, c'est libre, c'est pas beau nécessairement, mais je pense qu'il y a un plus grand dessin derrière ça. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand et que c'est vraiment en lien avec ça. Et si on continue justement de regarder les aspects importants, bien, c'est sûr que ça fait un carré à Pluton. En Capricorne, on est dans l'axe des signes cardinaux, on est sur l'axe du monde. Alors, c'est certain que on peut s'attendre à vraiment justement une tension sur différents thèmes, des thèmes de société beaucoup, un peu partout. Au niveau individuel, pour cette nouvelle lune-là, il y a une signature aussi d'être en contrôle ou de perte de contrôle ou de se faire imposer un contrôle extérieur. Puis comment justement, non, je vais aller vers le nœud nord, mais c'est une nouvelle lune en balance. Alors comment je me situe par rapport à ça? C'est sûr que les nouvelles lunes d'éclipse ou les pleines lunes, c'est bien touché pour avoir des nouvelles intentions parce que justement, comme je disais, l'énergie, elle est instable. Mais si vous aimez ça, une petite signature de chaos, puis que vous aimez jouer avec ça, bien, à vous de voir. Mais c'est certain qu'on a tout à gagner avec cette nouvelle lune-là, d'essayer d'instaurer les principes de la balance, justement, du vivre et laisser vivre, d'essayer d'avoir une ouverture, puis un peu de douceur envers les autres, c'est quand même la balance, tu sais. Mais de ne pas perdre de vue non plus notre place là-dedans, pas s'effacer pour laisser toute la place à l'autre, ce que la balance peut faire parfois. Alors, c'est toutes des réflexions comme importantes à avoir. Et en plus, justement, Vénus, qui gouverne cette éclipse-là en balance, va être en Vierge. Elle-même oppose Saturne. Alors, c'est ça, là, on peut voir ce feeling-là de se faire imposer des choses de l'extérieur, puis comme « Ah! » Donc, il y a beaucoup d'irritants, je vous dirais. Ça file très irritant comme affaire. C'est un peu le feeling quand on regarde tout ça. Fait que la question, c'est comment je peux me positionner devant certaines autorités ou un pouvoir que je peux sentir au-dessus de moi et à épuiser justement à l'intérieur de moi ma capacité à prendre ma place, ma capacité à exercer ma propre autorité ou même faire preuve de fermeté, mais peut-être dans un gant de velours parce que c'est la balance, l'art des compromis, mais sans se compromettre ou se mettre de côté. Donc, ça va être super important. Là. C'est vraiment des éclipses à thème relationnel. Si on regarde le 18, 19, 20, 21 octobre, on reste vraiment dans l'énergie de l'éclipse parce que là, on a le soleil qui continue son bout de chemin et là, Mercure qui le rejoint. Les deux sont toujours en balance, vont opposer le nœud nord, mais on est encore justement dans cette énergie-là du bélier qui est vraiment le moi. Et la balance, les autres. Alors, on est vraiment encore en train de faire cette petite danse-là, tu sais. Et Mercure, justement, sa conjonction avec le soleil, c'est toujours un moment d'éclaircissement. Ça fait du bien, ça va bien se prendre au travers de tout ça, mais on reste en éclipse. Fait que, comme je vous dis, ça peut encore shifter d'un bord comme de l'autre. Encore plus vrai que Mercure va aller faire son dernier carré, justement, à Pluton aussi. Alors là, c'est ça, on est encore dans la même énergie, tu sais, c'est comment qu'on se positionne par rapport aux autres, comment on dialogue, comment on deal avec tout ça à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi vraiment avec les autres. Fait que c'est un peu complexe là, comme période. Et tout ça nous amène au premier quart de lune qui va lui nous amener à la pleine lune, à la prochaine éclipse dans la semaine suivante. Premier quart de lune qui va être en Capricorne dans les derniers degrés. Comment je peux utiliser justement cette énergie-là du Capricorne pour peut-être me détacher puis avoir la tête un peu froide puis dire je vais continuer mon chemin puis je ne vais pas me laisser déchirer comme constamment puis tirer d'un côté et de l'autre. C'est quoi ça me dit à l'intérieur de moi, là? Est-ce que je peux rentrer un peu plus dans mes profondeurs, aller voir un peu plus loin? Fait que, comme vous voyez, ça se corse, tu sais, il y a beaucoup de thèmes relationnels et de pouvoir aussi, de transformation puis de profondeur qui est tout en lien avec tout ça et comment nous, on se positionne. Et tout ça nous mène à la dernière semaine, extensionnée un peu du 22 octobre au 31, à l'Halloween, Samhain, yes! Un moment tant attendu par plusieurs d'entre nous. Si on regarde le 22, 23, 24, on a quand même un peu de répit parce qu'il y a beaucoup d'aspects positifs qui vont se faire dans le ciel, autant dans les signes de terre et d'eau. Le 22, on a Mercure qui entre en Scorpion, qui vient rejoindre Mars. Alors, les conjonctions Mars-Mercure, hein, c'est « Ouh, j'ai pas ma langue dans ma poche, hein. Faites attention, qui s'y frotte, s'y pique. » Alors, c'est certain que justement, encore là, hein, on sent toute cette énergie-là combative, elle continue d'être là, mais c'est nécessaire, hein, ça fait partie de l'expérience humaine aussi, là. Mais, comme je disais, on a des aspects positifs. On a Vénus en Vierge qui va faire des aspects positifs à Jupiter en Taureau. Mercure en Scorpion va faire des aspects positifs à Saturne en Poisson. Et le Soleil aussi qui va entrer en Scorpion le 23 et qui va faire un aspect positif à Saturne. Alors, comme je disais, c'est très structurant, autant au niveau émotionnel qu'au niveau pratique de la vie. Nos défenses sont peut-être meilleures aussi, nos défenses sont peut-être un petit peu plus affichées. Mais en même temps, c'est ça, on a un côté pratique, on ne va pas aller se battre pour rien. Fait que c'est très intéressant quand même là, comme transition justement vers la prochaine pleine lune qui est le 28 octobre, pleine lune éclipse lunaire en Taureau à 5,9 du Taureau à 16h24. Heure de l'Est. Ça tombe un dimanche aussi, mais on va le sentir vraiment toute la période de ce week-end-là et de la fête d'Halloween. Donc, qu'est-ce que ça dit, cette pleine lune-là? Donc, déjà, une pleine lune, on atteint un point justement qui se veut d'équilibre ou de débordement, où on cherche un point d'équilibre. C'est les forces qui s'attirent et qui se repoussent. De quel côté je vais pencher? Est-ce que je vais plus du côté du Scorpion ou je vais plus du côté du Taureau? Ça va dépendre. Ça, c'est drôle parce que ça fait vraiment hey, « moi, là, j'adore l'Halloween » ou comme « hey, je veux rien savoir, là, je suis dans le Taureau, moi, là, puis je reste chez nous, je ferme les lumières, puis c'est moi qui vais manger mes bonbons. » Mais bon, là, je rigole un peu. Mais ça, tu sais, ça fait penser un peu à ça. Soit dit en passant, c'est vraiment les dernières éclipses là, sur l'axe taureau-scorpion, parce qu'au printemps prochain, quand les éclipses vont revenir, vont être vraiment... Une éclipse va être en balance, l'autre va être en bélier. Alors, Mars, il est en scorpion, il est chez lui. Il oppose pile poil Jupiter qui est en taureau. C'est quand même pas si mal une opposition Mars-Jupiter. T'sais, Jupiter, il reste quand même le grand Jupiter, le grand bénéfique, tu sais. C'est sûr que c'est une pleine lune, puis il peut vraiment avoir des débordements, là, clairement. Mais c'est une pleine lune en taureau. Alors, elle est gouvernée par Vénus. Encore des thèmes très vénusiens, même si on est rendu dans la saison du scorpion. De toute façon, hein, le scorpion suit la balance. Alors, lui, il approfondit les relations. Et justement, tu sais, au cours de cette éclipse-là, on pourrait peut-être trouver du réconfort dans certaines relations ou dans le goût justement d'être plus en cocooning puis se couper un peu du monde. Ça peut faire ressortir aussi des thèmes relationnels un petit peu plus comme conflictuels et autres, étant donné que Mars oppose Jupiter, là, c'est ça. Ça peut être très réconfortant comme ça peut être très confrontant. C'est des éclipses, c'est touché, fait que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Et comme je disais, gouverné par Vénus qui est en Vierge, qui est peut-être un petit peu plus sensible, un petit peu plus spécifique dans ses besoins et dans ses désirs, puis tout ça, puis enclin un peu à micro-manager, fait que là, ça pourrait être fort de ce côté-là. Et elle, de son côté, elle va opposer Neptune, fait qu'encore là, hein, c'est faut relâcher, faut pas rester stické. Ça file comme une genre d'escapade où est-ce qu'on va se réfugier dans le fond du bois puis on veut rien savoir de rien puis ça va bien. Ou ça file comme je m'enflamme un peu puis c'est conflictuel pour rien puis après ça, le lendemain, on se réveille puis on fait comme « Ah, pourquoi là je me suis emportée comme ça? » Alors, à faire attention, vraiment essayer de tourner un peu votre langue quelquefois avant de parler. Comme je disais, le soleil va être en conjonction avec Mercure, Mars, donc qui s'y frotte, s'y pique, comme je disais. Alors, à faire vraiment attention dans vos communications autour de cette pleine lune-là, éclipse lunaire en taureau. Et ça se poursuit, cette énergie-là, avec Mercure et Mars qui vont avoir leur conjonction le 29. Donc, cette énergie-là de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, comment qu'on veut, puis comment je vais le chercher, puis de l'exprimer, tout ça. Aussi, c'est très, très bon pour approfondir certains sujets ou se plonger dans certaines choses. C'est scorpion aussi, hein? C'est comme, tu sais, je trippe un peu sur l'occultisme, l'ésotérisme, tout ça. Là, ça se peut aussi qu'on se mette la tête là-dedans puis qu'on en dévore, hein? C'est Mercure et Mars. Alors, dans le signe du scorpion, le soleil est là aussi. Fait qu'on met la lumière sur des choses qui sont très cachées puis on veut en savoir plus puis on veut approfondir. Donc, c'est une super période aussi, là, si vous êtes par vous-même et que vous avez envie de vous lancer dans de la recherche ou approfondir certains sujets. C'est une énergie qui est excellente pour ça. Et le 31, le jour de Samhain, le jour de l'Halloween, on a Vénus, toujours en Vierge, qui fait un aspect positif à Uranus en taureau. Ben moi, je trouve ça vraiment le fun. Il y a comme quelque chose d'inusité là-dedans, d'essayer de faire différent, peut-être un goût d'expérimenter un petit peu plus, de sortir des sentiers battus, que ce soit côté déguisement ou que ce soit comment qu'on se sent cette journée-là. Il y a l'Halloween, évidemment, tu sais, fait que bon, c'est bien pour ça. Mais aussi, si on pense encore là à tout le travail que Vénus a fait et que maintenant, là, au lieu de faire un aspect difficile à Uranus, ça fait un aspect positif. Alors, c'est vraiment l'implantation de tous les changements peut-être qu'on a essayé de faire pendant l'été, puis c'était difficile, puis tout ça, ou est-ce que là, je commence à me sentir mieux justement. Si ça a brassé pour vous, s'il y a eu des séparations, tout ça, ben il y a peut-être un côté où est-ce que, OK, je commence à être plus grounded justement dans les changements que j'ai faits. Alors voilà, c'est comme ça que le mois va se terminer avec la célébration de Samhain, de l'Halloween, les timos dans les rues, les bonbons, tout ça, on aime ça, c'est le fun. Donc, bon Halloween à tout le monde et soyez prudents, évidemment, et surtout, amusez-vous. C'est sûr que le week-end avant, comme on disait, les parties d'Halloween, aïe aïe, là, avec l'énergie de l'éclipse, comme, écoute, tu vois que vous allez avoir tellement de fun, mais, pleine lune, éclipse, le week-end de l'Halloween, I don't know, il pourrait arriver des affaires weird, je vous le dis d'avance. Mais amusez-vous, Ayez du plaisir, c'est fait pour ça. Maintenant, j'avais envie de regarder des chartes de natifs connus, comme je disais, et j'en ai choisi deux, une pour la saison de la balance et une autre pour la saison du scorpion. Et pour le signe de la balance, j'ai choisi Alexandria Ocasio-Cortez, aussi connue sous le nom de et aussi, une politicienne et activiste américaine qui a rejoint le Parti démocrate en 2019 pour l'État de New York, si je ne me trompe pas. Elle était la plus jeune à se faire élire au Congrès américain à l'âge de 29 ans. Elle a une très grande présence sur les médias sociaux. Elle est reconnue pour vraiment dire qu'est-ce qu'elle pense et le dire comme c'est et confronter et tout ça. Puis c'est une balance. Mais vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors, c'est une femme qui milite justement pour des idées qui sont très progressives, qui met de l'avant les droits des travailleurs, de l'aide médicale pour tous. On se rappelle qu'aux États-Unis, c'est différent que le Canada. Hein? Il faut avoir des assurances. C'est pas universel, leur accès à des soins. Qui défend très ardemment le Green New Deal, vraiment, environnementaliste. Donc, et voilà, c'est quelqu'un qui est très, 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 très engagé et qui a fait sa place comme vraiment rapidement et qui a été reconnue rapidement aussi. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle a tellement de balance. Elle a le soleil en conjonction avec Mars. Alors, on le voyait tout à l'heure, quand que Mars est de la partie, il y a du croquant quand même. Il y a un petit peu plus de... le petit d'or, il peut sortir de temps en temps, là, même s'il n'est pas en scorpion. Donc, soleil-Mars, alors elle a déjà cette énergie-là très forte. Elle a Mercure aussi. Fait que tantôt, on parlait de la conjonction Mars-Mercure. Elle aussi, elle a ça. Elle a ça en balance dans sa maison 10, la maison des grandes aspirations en carrière. Alors, c'est tellement évident qu'elle, justement, elle incarne ces idéaux-là de la balance. Vraiment, d'équité, d'égalité, de justice sociale, tout ça. C'est tellement clair. Et, évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, là? D'où est-ce que ça vient, ce feu-là, vous pensez? Bien, ça vient de sa lune en bélier. Alors là, c'est parfait, puisqu'on parle tellement de l'axe balance-bélier, bien, elle a dans son ciel, ça veut dire qu'elle est née pratiquement à une pleine lune, là, c'était pas exact, mais pas loin. Donc, sa lune, comment qu'elle sent à l'intérieur, ses besoins, c'est qu'est-ce qui vient la chercher, bien, c'est tout le côté de la balance, évidemment, parce que son Mars est en balance, mais justement, à l'intérieur, c'est une fougue, c'est fort, c'est la lune en bélier, c'est comme, hey, moi, là, je vais être la première à faire ma place au Congrès américain, peu importe, là, par où j'ai passé ou qui je suis ou tout ça. Elle a quand même des hautes études à l'université, tout ça, mais elle avait vraiment fait son chemin par elle-même. En plus, elle a l'ascendant Sagittaire. Les Sagittaires sont reconnus justement pour déjà là défendre leurs idées, leur philosophie, leur vision, amener ça, essayer de convaincre les gens et tout ça, d'y aller très fort. Quand ils croient en quelque chose, les Sagittaires, ils vont y aller, puis ils veulent partager, ils veulent faire entendre, ils veulent débattre, ils adorent ça. Donc, c'est très, très, très présent dans sa charte et ça rend le tout super intéressant justement. Elle est née le 13 octobre 89, elle fait partie des milléniaux. Comme bien des natifs qui sont nés dans cette période-là, vous avez Uranus et Neptune en Capricorne. Elle a aussi Saturne en Capricorne, donc elle a eu son retour de Saturne peu de temps après être entrée au Congrès américain. Donc voilà, un bel exemple de balance. Quand on pense en balance, et on pense souvent comme « Ah oui, mais tu sais, faut pas que je fasse de vagues, tout ça ». Mais elle, c'est ça, c'est vraiment la défense qui est portée par sa lune en bélier et son désir, son besoin de passer à l'action, pas juste avoir des grandes idées, mais vraiment comme d'aller plus loin que ça, tu sais, puis de toute l'idée de transmission, puis de transmettre aux prochaines générations, des fois qui est beaucoup avec l'ascendant Sagittaire, l'idée de la transmission. Pour le scorpion, pour continuer dans le thème un petit peu, comme je vous disais au début, de l'identité de genre, j'ai choisi Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, née Bruce Jenner, est née le 28 octobre 1949. On a son heure de naissance, on est sûr de son ascendant. Donc, scorpion, ascendant scorpion. tellement intéressant étant donné son parcours avec la Lune en Verseau. Lune en Verseau, d'ailleurs, qui oppose son MC dans le ciel, qui est en conjonction avec Pluton en Lion. Et ça, c'est super important parce que quand on regarde ses transits, des moments clés dans sa vie, cet axe-là est très activé et ça devient super intéressant de voir ça. Quand je vois des gens en consultation, je dis toujours que si on a le soleil et l'ascendant dans un même signe, il y a comme vraiment une symbolique super importante parce que avec le soleil, je viens incarner quelque chose et avec l'ascendant, à la fois, c'est l'extension un peu de mon caractère, de ma personne, comment j'interagis avec mon environnement, mais c'est aussi comment je vais avoir certaines grandes leçons de la vie. Et je dois revenir un petit peu en arrière pour ceux qui ne savent pas qui est Caitlyn Jenner. Comme je disais, dans son autre vie qui était Bruce Jenner. Alors, dans son ancienne vie, Bruce Jenner était un médaillé d'or au Décathlon, si je ne me trompe pas. C'était quelqu'un qui était vu justement comme un icône de la masculinité d'une certaine façon et de l'excellence. Et à l'époque, dans son autre vie, il a aussi donné son nom à Kylie et Kendall Jenner et tous les autres. Là, il y en a une couple de Jenner. Puis ce qui est tellement intéressant, justement, c'est que c'est une personne qui était tellement en vue, connue, surtout aux États-Unis. C'était vraiment un symbole. Et que cette personne-là fasse une transition, c'était gros, là. Au moment de son coming out, on était en 2015. Et on pourrait dire que c'est comme un, en tout cas, c'est un des premiers coming out très médiatisés qui a ouvert la porte et qui, pour la première fois, a comme montré au monde, ben, hey, on est là, on existe, là. Tu sais, on va pas se cacher, puis on va plus se cacher, tu sais. Et justement, on a pu voir sa transformation de Bruce à Caitlyn et comment aujourd'hui complètement épanoui là-dedans. C'est ça, Bruce vivait dans un mensonge. C'est toute sa vie, pour lui, c'était comme un grand mensonge. C'était de vivre selon les attentes qu'on avait envers lui ou les attentes de la société, surtout à une époque justement où est-ce que c'était comme impensable. Les gens, ils devaient justement se cacher pour vivre leur identité de genre, si elle était différente de celle à la naissance, tout ça. Alors, c'était tellement complexe, donc tellement un beau modèle. Comment on sait le scorpion? C'est le signe qui incarne les transformations, justement. Fait quelque part, il est venu incarner cette énergie-là, mais avec son ascendant scorpion, qui est dans les premiers degrés, il y avait quelque chose à vivre dans sa vie de dire je vais me permettre de me transformer encore et encore. Je vais me permettre de surmonter mes craintes, surmonter mes peurs, surmonter qu'est-ce que les gens de l'extérieur pourraient penser. Et je vais devenir encore plus moi-même. Je vais encore plus rentrer dans mon essence profonde de l'ascendant scorpion, tu sais. Alors, c'est super intéressant, là, cette danse-là dans son ciel. Et le jour de son coming out, le 24 avril 2015, le nœud nord était en balance. Et elle-même a, dans sa charte natale, son axe des nœuds en bélier balance. Elle a le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Le nœud sud, justement, qui est en conjonction avec Neptune et Mercure en balance. Je trouve ça tellement intéressant. Et le moment où elle a fait son coming out, bien, le nœud nord, il était en balance. Non seulement ça, son Pluton, qui est en Lion, dans la maison 10, pas tellement loin de son MC, Pluton, la planète de la transformation, dans la maison 10, la maison où est-ce que les gens nous voient, tu sais, c'est là que les gens nous voient. Bien, à ce moment-là, Jupiter était entré en Lion, était dans sa maison 10, pas tellement loin de son Pluton, mettait vraiment en lumière toute sa transformation ou l'idée de la transformation, puis comment justement c'est comme, c'est le lion, le me voici, me voilà, voici l'expression de ma personne. C'est une belle, belle, belle histoire justement de coming out, puis c'était tellement significatif. En plus, la Lune était en Cancer cette journée-là. Il y a comme une signature intéressante, je trouve, pour Caitlyn Jenner et justement ce moment-là dans sa vie. Alors voilà pour nos natifs connus de la Balance et du Scorpion. Alors maintenant, on va regarder vos questions Instagram. Première question.
Salut Mélanie. Dans le fond, moi, ma question concerne les maisons en astrologie. J'ai remarqué que quand je lis des chartes, des fois, les maisons ne se suivent pas dans les signes. Comme par exemple, moi, ma maison 5 et 6 est en bélier. Et donc, je n'ai aucune maison qui tombe en poisson. Et donc, c'est valable pour l'axe sœur de ces deux signes-là. Et je voulais savoir si ça avait une signification particulière quand on sautait comme ça un signe astrologique dans les maisons. Merci.
Excellente question. Et c'est une question complexe à répondre parce que ça nous amène au cœur du débat sur les maisons. C'est important de savoir que des systèmes de maisons, comment on divise le ciel par 12, autrement dit, il y en a plus d'une trentaine. Et chacun de ces systèmes-là a une fonction. Il y a deux catégories principales de systèmes de maisons, ceux à cadran et ceux sans cadran. Les systèmes à cadran vont diviser le ciel par l'ascendant et le MC, bien souvent. Et les systèmes sans cadran vont fonctionner par signe entier. Les systèmes à cadran vont mettre l'ascendant au début de la maison 1. Même si c'est à 29 degrés, c'est là qu'il va être. Et après ça, les différents cadrans, 1, 2, 3, 4. Dans le fond, les cadrans, c'est maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vont être divisés justement par l'ascendant et le MC, qui nous donne évidemment ascendant, descendant, MC, IC. Et ça, bien, ça va varier vraiment. C'est beaucoup en lien avec la longitude, latitude, où est-ce que tu vis dans le monde, tout ça. Tandis que les systèmes non cadrants, comme All Sign, exemple, vont vraiment tout séparer de façon égale, vont mettre l'ascendant quelque part dans la maison 1 et vont mettre un peu le MC et le IC comme, on pourrait dire, flottant parce qu'ils ne sont pas associés à un début de maison. Alors là, je sais que c'est un petit peu complexe tout ça, mais pour essayer de vous résumer ça, dans le monde présentement, on pourrait dire qu'il y a deux systèmes qui sont plus utilisés que les autres. Dans les systèmes à cadran, ce serait Placidus et dans les systèmes non cadran ou sans cadran, c'est All Sign. Et là, c'est ça. Si tu utilises un système à cadran, ça va écraser certaines maisons par rapport à d'autres et ça se peut qu'il y ait des maisons ou plutôt des signes qui soient interceptés. On appelle ça intercepté entre deux maisons. C'est comme s'il y a des signes qui ne gouvernent pas de maisons parce qu'ils sont interceptés en deux maisons. Alors, ce qu'il faut comprendre de ça, qu'est-ce qui est important de comprendre de ça, c'est que les différents systèmes de maisons, c'est des systèmes de mesure. C'est comme des filtres qu'on met pour voir différentes choses. Tu sais, la photo reste la même. C'est la photo du ciel à votre naissance. On va appliquer différents filtres pour voir différentes choses. Et qu'est-ce que c'est, ces différentes choses-là? Soit la planète, son emplacement dans l'espace ou son emplacement dans le temps et ou les deux et ou pas pantoute. Fait que, tu sais, c'est toute une idée justement de diviser soit par le temps, soit par l'espace, soit par l'espace-temps, qui viennent nous donner une couleur ou des nuances différentes à nos systèmes de maison. Enfin, je sais, c'est super complexe, là. Et d'ailleurs, justement, pour les gens qui utilisent All Sign, c'est absolument important, même si vous utilisez All Sign, que vous soyez capable de trouver ces points-là, le IC, le MC, votre ascendant et descendant, votre haut du ciel, milieu du ciel, parce que les maisons 1, 4, 7 et 10, c'est dans les maisons les plus importantes en astrologie et de pouvoir repérer vraiment le point, le degré où est-ce que votre MC est réellement, c'est sûr que ça va vous donner plus d'informations sur votre direction de vie, sur vos grandes aspirations, tout ça, que de le laisser juste dans un point flottant. Puis c'est pas de dire qu'un système est meilleur que l'autre, ils ont toute leur importance. Personnellement, moi, j'utilise Placidus, Porphyrie et All Sign. Je les utilise pour différentes choses. C'est important de passer de un à l'autre, aller voir justement c'est quoi les différentes nuances et de se rappeler que peu importe justement les systèmes de maison, on arrive pas mal toujours aux mêmes conclusions à quelques nuances près. Puis ces nuances-là, si vous amènent à mieux vous comprendre, c'est ça qui est important. Alors voilà!
Allô Mélanie, je me demandais si tu pouvais nous donner un petit peu plus de contexte sur les nœuds, nœud nord, nœud sud. Moi, j'ai le nœud sud en vierge, le nœud nord en poisson. Je me demandais si la saison dans laquelle on est, par exemple la saison de la vierge qu'on vient de passer, est-ce que ça peut avoir un impact sur moi par exemple, en raison de ces placements-là? Merci!
Très bonne question, effectivement. Les nœuds. Les nœuds, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points fictifs, si on peut dire, dans le ciel. C'est un peu des points de direction, c'est en lien avec le mouvement de la Lune autour de la Terre, relativement au mouvement de la Terre autour du Soleil. Et c'est là que les éclipses se passent. L'axe, les nœuds lunaires, quand on parle des nœuds, on parle des nœuds lunaires. Il faut dire que toutes les planètes ont leurs nœuds, mais les nœuds lunaires sont super importants parce que justement, c'est là que le croisement entre le mouvement de la Lune, de la Terre et le Soleil se passe et c'est là que les éclipses se passent. Donc, c'est très significatif. Pour la symbolique, ça dépend des traditions. Si vous êtes en astrologie védique ou en évolutionnaire ou tout ça, tu sais, il va y avoir différentes symboliques associées aux nœuds. Mais de façon générale, le nœud sud est associé un peu à qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est confortable, notre zone de confort, et le nœud nord, qu'est-ce qu'on a à développer, vers quoi on devrait tendre justement pour notre évolution, pour notre croissance et tout ça. Puis l'idée, c'est pas nécessairement de complètement quitter le nœud sud pour s'en aller vers le nœud nord, mais plutôt de trouver un point d'équilibre au centre. Dans l'exemple de Mademoiselle, si elle a le nœud sud en vierge et le nœud nord en poisson, ben oui, quand ça va être la saison de la vierge ou du poisson, ça va activer justement ces points-là. Par contre, des fois, les nœuds, c'est tellement inconscient, c'est tellement évolutif que c'est pas clair c'est quoi les messages pendant qu'on est dans la saison 2. Mais c'est sûr que si j'ai le nœud sud en vierge et que je suis dans la saison de la vierge, bien là, peut-être ça va renforcer justement ma programmation un peu en vierge, quand dans le fond, je devrais développer un peu le poisson. Mais quand ça va être dans la saison du poisson, justement, c'est peut-être moins confortable pour la personne, mais elle a tellement à apprendre, justement, d'être dans ces eaux-là, clairement, puis toutes les notions avec le lâcher-prise qui est dans le signe du poisson. Par exemple. Alors, oui, ça va avoir un impact, mais souvent, ça va être très subtil. C'est sûr que s'il y a beaucoup de conjonctions de planètes ou des carrés où il y a bien de l'action, bien des transits, bien là, ça va influencer ça. Mais comme toujours, il faut regarder toute la charte pour avoir une bonne idée de comment tout ça fonctionne pour la personne. Prochaine question.
C'est une question pour ton podcast. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on parle souvent du retour de Saturne vers qui arrive vers les 30 ans, nos 30 ans. Et puis, moi, je me demandais s'il y avait d'autres types de transits et quels sont-ils vers 40? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Parce que personnellement, il s'est pas mal rien passé quand j'ai eu 30 ans, mais 40, à ta boy, à peu près 100% de ma vie a changé. Donc, c'est ça, j'aimerais en savoir plus à ce sujet-là. Merci, bye-bye.
Une autre super question. Premièrement, le retour de Saturne qui arrive autour de 30 ans, vers 28, 29, 30. Il culmine vers 29-30, mais souvent, on va le sentir comme 2 ans avant qu'il revienne pile poil où est-ce qu'il était à votre naissance. On parle de la planète Saturne, on parle de la maturation, de la responsabilisation, des limites, des épreuves aussi. Et comme Saturne, ça lui prend à peu près 30 ans à faire le tour d'une charte, ce moment-là, quand il revient où il était à votre naissance, c'est super important. Pour avoir parlé avec la demoiselle qui m'a envoyé la question, mais justement, à son retour de Saturne, elle se mariait, elle finissait son bac, il y avait toutes plein de choses super importantes qui allaient définir vraiment la suite pour elle. Fait que Saturne, justement, il vient comme consolider certaines choses, nous amener à devenir encore plus adultes. C'est pas toujours négatif, mais tu sais, c'est comme OK, là, genre, je m'achète une maison ou oh, c'est là, j'ai eu mes enfants ou des trucs qui sont vraiment importants et structurants pour notre vie. Et que là, il faut step up. Tu sais, il y a vraiment cet effet-là, retour de Saturne. Pour certaines personnes, les personnes qui sont saturniennes vont mieux dealer avec leur retour de Saturne. Ceux pour qui c'est comme « Ah non, je ne veux rien savoir des responsabilités, je ne veux rien savoir de vieillir, je ne veux rien savoir de devenir un adulte. » Comme « Non! » C'est sûr que là, c'est plus difficile, tu sais. Et qu'est-ce qui arrive autour de la fin trentaine? Il arrive ce qu'on appelle le carré de Pluton. Et oui, mesdames et messieurs. Et si le retour de Saturne peut durer jusqu'à 2 ans à peu près, parce que c'est toujours le mouvement direct, rétrograde direct, mais pour Pluton qui se déplace super lentement, c'est encore plus vrai, puis des fois ça dure 3 ans. Mais comme c'est Pluton, c'est vraiment inconscient, parce que c'est la planète justement de l'inconscient, c'est des transformations profondes, c'est vraiment du shadow work, c'est vraiment des choses que... on pensait qu'on avait compris puis qu'on avait réglé, puis à un moment donné, ouf, ça revient à la surface. C'est un peu, justement, là, faire face à ces démons, honnêtement, faire face à des choses qu'on a essayé de refouler, tu sais. D'une façon ou d'une autre, ça provoque un peu un effet de reconnecter avec son propre pouvoir personnel, mais c'est beaucoup par l'évacuation de nos poubelles. Alors, c'est un moment souvent qui est très... thérapeutique, cathartique et pas évident. C'est souvent un moment où les gens vont sentir le besoin d'aller en thérapie pour justement se démêler avec tout ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est toutes les choses qu'on avait refoulées, qu'on avait mis de côté, puis qu'on s'avait dit « Ah non, c'est correct, là, je vais tolérer ou je vais laisser passer tout ça », bien là, il y a comme quelque chose qui monte, c'est comme « Arc, je suis plus capable, faut que ça sorte ». Puis c'est très déstabilisant, c'est Pluton, c'est très intense. Ça vise vraiment à amener une renaissance dans notre vie. Alors, un peu comme avec Saturne, les gens qui ont déjà fait le travail, qui sont très conscients, puis qui ont déjà, tout au long de leur vie, travaillent très, très fort, ce carré-là de Pluton, il n'est pas si dur ou il n'est pas si difficile. Il peut même être très « empowering », si on peut dire. Mais c'est ça. Plus souvent qu'autrement, ça amène quand même à une introspection qui vise une renaissance puis qui vise une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et après ça, ben début quarantaine, 42, 43, 44, ça dépend. Là, ça va être l'opposition d'Uranus, la deuxième adolescence, aussi connue sous le nom de midlife crisis. Et là, c'est comme... Je suis pas encore vieille, mais je suis plus aussi jeune, là. Fait que c'est comme, si je veux faire un changement, si je veux changer de vie radicalement, tout ça, Uranus, radical, changement, et ben c'est là que ça se passe, tu sais. On a encore l'énergie pour le faire, tout ça. S'il y a des trucs qui stagnent dans nos vies, on va vouloir faire éclater ça. Fait que souvent, c'est deux mouvements qui vont ensemble, le carré de Pluton suivi de l'opposition d'Uranus. Et ça se passe tout justement à fin trentaine, début quarantaine. Fait que c'est un moment vraiment de deuxième chance ou de deuxième vie ou de recommencer à zéro. Mais c'est une période qui est vraiment assez intensive, si on peut dire. T'sais, il y a beaucoup de travail d'acceptation et de lâcher prise qui vient avec ça. Et dernière question.
Salut Mélanie, moi j'aimerais ça que tu nous donnes des idées de façon différente, inusitée, de nous servir de nos cartes de tarot et d'oracle. Tu sais, pour les journées où on n'a pas nécessairement de questions à poser, mais où on a envie d'être en contact avec nos cartes. Merci.
Bon, une question sur le tarot, ça fait du bien, ça fait changement. Ça, c'est tellement personnel à chacun, à nos pratiques avec le tarot. Moi, souvent, je vais me prendre une carte pour la semaine et je ne pose pas de questions. Je regarde juste qu'est-ce qui va ressortir. Des trucs inusités, si vous pigez une carte, exemple le 5 de coupe, tiens, allez sortir toute la série des 5 dans chacun des éléments, là. Allez toutes les chercher puis comparez-les. Comparez-les. Habituez-vous à voir c'est quoi les différences dans ces séries-là. Ça peut être intéressant de faire ça. Des fois, sans piger de cartes, il y a toujours des cartes, pour n'importe qui fait le tarot, qui s'inspire du tarot, tout ça, il y a toujours des cartes qu'on n'aime pas. Moi, j'ai envie de vous dire, de temps en temps, sortez-en une, puis regardez-la. Laissez-la là, tu sais. Puis essayez de voir pourquoi ça fait remonter, qu'est-ce que ça fait remonter, puis qu'est-ce que ça fait remonter au juste. Parce que ça va vous aider à développer aussi peut-être votre connexion avec cette carte-là, puis peut-être vous amener à la voir autrement. Est-ce qu'elle suscite des peurs? Comment je peux apprivoiser ces peurs-là quand je vois cette carte-là? Alors ça peut être super intéressant. Ou aussi, au contraire, c'est des cartes qui vous inspirent. Tu sais, sans tirer une carte, mais « Ah, là, cette semaine, là, j'ai besoin de l'énergie du chariot, exemple. » Sortez-le, attendez pas de le piger, sortez-le, puis mettez-le à un endroit où vous pouvez le voir, dans un miroir ou près de vous, tout ça. Ça peut être super le fun. Mais sinon, c'est ça, je suis vraiment une grande fan de piger des cartes sans poser de questions et de voir qu'est-ce que ça suscite. T'sais, puis d'entamer une conversation réellement là, avec votre carte là, t'sais, ou avec le personnage qui est dans votre carte. Qu'est-ce que tu as à me raconter, toi? Ou même s'il n'y a pas de personnage dedans, t'sais, de prendre le temps de les contempler, de prendre du temps de les regarder. Parce qu'il y a tellement de symboles dans le tarot. Puis moi, personnellement, quand je lis les cartes pour quelqu'un, des fois, c'est même pas la symbolique du tarot qui va ressortir. Tu sais, mes yeux vont s'en aller sur... s'il y a de l'eau, je vais rester sur l'eau. Oups, là, j'ai un feeling émotionnel. Oups, là, il faut que je partage quelque chose à la personne. Des fois, ça n'a même pas rapport avec la symbolique de la carte. Fait que c'est important, justement, d'observer la carte puis voir qu'est-ce qui me parle dans cette carte-là. Alors, voilà, c'est ce qui me vient. Merci pour vos questions, tout le monde. C'est super cool. Et on remet ça le mois prochain. Alors, pour la petite chronique de fin d'épisode, j'avais envie de parler de l'identité de genre parce que je trouve que c'est très balance, c'est très relationnel. Parce que je suis moi-même née avec Pluton en balance, c'est ma génération. Et là, on s'en va aussi dans un air de Pluton en Verseau. Balance qui est un signe d'air, Verseau qui est un signe d'air. C'est sûr que moi, ça vient réveiller mon Pluton à moi, ça vient réveiller un peu ma place dans le monde, puis tout ça, puis toute ma génération, sans aucun doute. Et parce que, justement, les nœuds sont sur l'axe Belly Balance. Et cet axe-là, ben dans le fond, ça nous parle des axes des quatre signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. L'axe ou la croix du monde matériel, de la famille, du soi et des autres, c'est la société, tu sais. Capricorne, Cancer, tu sais, papa, maman et Bélier, Balance, frères et sœurs. C'est beaucoup ça. Là. On a Papa Saturne en haut, en Capricorne, on a la Lune en Cancer, Maman en Lune. Après ça, on a le Bélier avec Mars et Balance avec Vénus. C'est Papa, Maman, frère et sœur, quelque part. T'sais. Donc, l'axe du monde. Et là, c'est ça, c'est important de mentionner. On a tous à l'intérieur de nous un mélange de Mars et Vénus. On a tous un mélange d'archétypes masculin et féminin, de yin et de yang. Des forces qui sont à la fois opposées et complémentaires. On a tous à l'intérieur de nous un spectre d'expression de ces principes-là. C'est des archétypes, c'est ça qui est important de comprendre. Puis des archétypes, ce sont des symboles universels. Ça transcende les notions de bien et de mal, de noir ou blanc. Ça transcende les notions de genre. Les archétypes, là, ça incarne des principes psychologiques fondamentaux à l'expérience humaine. Fait que quelque part, quand je dis on a tous du Mars et du Vénus, on se comprend, on a tous du so-called féminin masculin parce que c'est des archétypes. Mars, fonceur, parfois l'agressivité, l'aspect guerrier à l'intérieur de nous, peu importe t'es qui, t'as ça en dedans de toi. Vénus, le désir, la beauté, tout ça. Peu importe qui, t'as ça en dedans de toi. Ça dépasse le genre. Alors, ma discussion, elle est à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, above and beyond de tout ça, tu sais. Oui, il y a la biologie, mais il y a l'expérience humaine. À partir du moment qu'on parle de l'expérience humaine, tout est beaucoup plus subjectif et nuancé. Puis c'est pas de l'idéologie de genre, là, qu'est-ce que je suis en train de dire là. C'est la réalité. Hey, un homme, ça pleure pas, tu sais. C'est-tu assez nocif pour la santé mentale des hommes, ça? Je suis juste Mars, moi, je sois fort tout le temps. Mais non, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que t'ailles pas un endroit tendre à l'intérieur de toi ou sensible, là. Ou des trucs qu'on entend. J'avais beaucoup d'amis musiciens et musiciennes. Ah, elle drum tellement bien pour une fille. Moi, ça drum tellement bien pour une fille. Elle drum tellement bien tout court. Pourquoi faut ajouter fille, tu sais? Tous des trucs comme ça, là, c'est tellement subtil, là. Puis que tu sois non-binaire ou trans ou cis ou peu importe, on est toutes victimes de ça. On est toutes victimes de qu'est-ce qui a été projeté sur le féminin puis le masculin, tu sais. On est toutes victimes un peu de ces carcans-là très définis. Et là, ben, on sort de l'ère de la dualité tranquillement, mais sûrement, on rentre dans l'ère de la diversité, les amis. On rentre dans l'ère du Verseau, là. Ou du moins dans l'ère d'air. Et l'air, ben, ça va à tous les vents et tout se répand dans toutes les directions. Là. C'est comme ça. Là. Donc, quelque part, nous sommes tous en transition, nous sommes tous en révision de modèles que la société ou la religion ont créés, pour ne pas dire imposés, au fil du temps. Puis, il faut bien se dire aussi, fortement renforcés par une vision patriarcale depuis 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Hein, que ça s'est installé graduellement, tout ça. Et là, ben, nous sommes à une époque où nous questionnons et nous réfléchissons à l'héritage du passé. Parce que le futur, il est à nos portes. Puis c'est sûr que c'est déstabilisant pour plusieurs personnes, puis c'est déstabilisant pour le statu quo, et même pour les personnes qui craignent d'adresser ces sujets-là, ou même juste d'y penser, ça, tu sais, c'est tellement déstabilisant. Puis aussi, d'un autre côté, je pense qu'il faut faire attention, puis là, bon, ça, c'est beaucoup mon Pluton en balance qui parle. Il faut prendre du recul puis voir qu'il y a vraiment un jeu politique grave, à la limite, qui se joue aux extrêmes depuis quelques années, que ce soit à droite comme à gauche, là, puis partout dans le monde, on se fait tous tirer par des extrêmes à des fins politiques. Tu sais, il faut bien se l'avouer, là. Moi, par exemple, mes positions sur l'environnement, sur la crise climatique, pour la plupart des gens, je suis tellement trop à gauche, puis pour d'autres, je ne suis pas assez, tu sais. Puis si on ne fait pas attention, si on se déchire entre nous, si on n'est plus capable de s'écouter, parce que là, c'est ça le problème. Tout le monde veut être entendu, mais plus personne ne veut s'écouter, là. Bien, on va diminuer nos capacités à se comprendre, de faire une réelle différence, puis de faire avancer les choses. Mais ça, ça fait partie du jeu politique que je parlais, de la petite politique à laquelle on assiste depuis quelques années, diviser pour mieux régner. C'est boosté aux stéroïdes par les médias sociaux. C'est à qui parle le plus fort, qui a la meilleure réplique coup de gueule de 15 secondes, qui fait plus de clics, qui génère le plus d'engagement. Tu sais, c'est ça, là. On se fait vraiment, tout le monde, hijacker par des gens qui créent des polémiques, qui créent une guerre culturelle, et que quelque part, on est tous perdants là-dedans, et que quelque part, on se fait entraîner quand, dans le fond, ils sont pas là, les vrais problèmes, là. Tu sais, on se fait tellement hijacker, là, c'est même pas drôle. Tu sais, certains à la gauche vont aller encore plus à gauche, puis certains à la droite vont aller encore plus à la droite, parce que là, justement, là, il y a une guerre là, entre ces extrêmes-là, là, dans le fond, c'est là que ça se passe, puis c'est des petits pourcentages, puis ça représente pas l'ensemble, puis là, on se fait pogner là-dedans, puis ça va finir où? Ça va s'arrêter quand? C'est un peu une guerre de culture et de valeurs à laquelle on assiste un peu partout. Moi, personnellement, peut-être, justement, tout cet effet-là de Pluton en balance, moi, je crois profondément à rallier les gens, tu sais, à essayer de rallier les gens plutôt que les diviser, là. Puis je comprends que c'est ça, c'est nécessaire des fois de se battre, puis j'en suis. Mais c'est ça, il faut être conscient aussi qu'il y a ces voix-là externes qui prennent des sujets, des thèmes, qui amènent ça à des niveaux tellement malsains que c'est vraiment problématique pour toute la société, honnêtement. Puis, tu sais, justement, on entend ça un peu, là. C'est des idées gauchistes, là. Ils essaient d'endoctriner nos jeunes. Bon. Tantôt, on parlait de Caitlyn Jenner, tu sais. Elle a fait son coming out en 2015. Puis, c'est vrai que... ça l'a permis justement à certaines personnes qui étaient dans la même situation qu'elle de se faire plus entendre et d'être plus à l'aise d'en parler, tu sais. Est-ce que ça fait que le nombre est plus grand, que tout d'un coup, il y en a plus? Non. Ça fait juste que les gens sont plus à l'aise d'en parler. Tu sais, à un moment donné, on sent qu'il y a une ouverture, fait « OK, tu sais, j'y vais ». Et moi-même, en 2015, j'étais dans mon autre vie en coiffure et... j'ai quand même fait ça pendant 25 ans et dans les 20 dernières années que j'étais sur la rive sud de Montréal, veux pas, j'avais une clientèle très fidèle et moi, j'ai vu des grands-mamans, parents, enfants. Il y a des enfants que j'ai connus tout petits et je les ai amenés à... je les ai côtoyés jusqu'à temps qu'ils aillent 20 ans. Je pouvais avoir des relations, tu sais, après 20 ans, veux pas, là, on se confie beaucoup de choses. Puis, tu sais, il y a un lien de confiance. Et moi, j'en ai des jeunes qui ont fait des coming out pour me dire, je suis soit non-binaire ou je réalise, je suis vraiment pas dans le bon corps, là, moi, là. puis j'ai l'intention d'en parler à mes parents, puis je ne sais pas comment faire avec ça, tout ça. Puis moi, je connaissais aussi les parents. Fait que, tu sais, j'ai vu tous les deux côtés de la médaille. Puis heureusement, c'était tout du monde très ouvert, puis, tu sais, qui ont accompagné leur enfant là-dedans. Mais, tu sais, c'est une transition, on veut pas. Il y a quelque chose qui meurt pour quelque chose qui naît. Fait que c'est certain qu'il y a tout un... Il y a un deuil au travers de ça. Des fois pour l'entourage, des fois il y a une incompréhension ou une non-acceptation, mais la personne, elle a renaît, là, tu sais, c'est sa naissance, elle se donne naissance, tu sais. Fait que pour revenir à la gauche, on accuse la gauche, justement, d'endoctriner, mais c'est pas la gauche, là, qui a créé ça, là. Tu sais, c'est arrivé naturellement dans la société. Puis la gauche, son travail, c'est de protéger les minorités. La situation, justement, elle est apparue d'elle-même. À cette période-là de ma vie, justement, des enfants que j'ai connus et qui ont décidé de faire la transition, j'en ai eu deux. En coiffure, je travaillais avec une esthéticienne, puis elle aussi, justement, elle faisait partie d'aider les gens à faire leur transition. Tu sais, pour certaines personnes, c'était de faire disparaître les poils sur leur corps, par exemple. Pour certains, de devenir femme et de trouver une façon de sentir femme. Et nous, notre travail, c'était de les accompagner là-dedans, du mieux qu'on pouvait, tu sais. Au niveau de comment eux se voient et se perçoivent. Et c'est comme ça, justement, que j'ai rencontré une femme extraordinaire que j'aime beaucoup et qui a été au Québec super importante pour l'identité de genre et justement pour les personnes trans. Elle a été une des premières personnes dans son milieu de travail à faire une transition, à demander justement d'avoir des droits, d'être reconnue. Donc, elle a fait beaucoup avancer la cause, surtout dans le monde du travail ici au Québec. Et elle a fait sa transition dans la cinquantaine, là. C'est quand même pas rien, là. Et je me souviens d'avoir eu tellement de belles conversations avec elle parce que c'est une personne qui était très spirituelle et qui l'est toujours, d'ailleurs. C'est ça qu'on se disait, tu sais, tout ce questionnement-là ou tout ce mouvement-là de société, ben c'est le même combat que les communautés gays et lesbiennes ont porté dans les années 60-70. Puis, tu sais, je dis gay et lesbienne parce que juste d'être gay dans ce temps-là puis de le dire, c'était quelque chose. Puis lesbienne, c'est comme, mon Dieu, tu sais, ben, on parle pas trop de ça, là, une femme, voyons donc, tu sais. Fait que c'est toute l'évolution de la société. Puis je me souviens comment elle me disait, c'est quelqu'un qui voyageait dans le monde et comment qu'elle se sentait safe au Canada et que là, avec tout ce qui se passe, comme, ça se peut pas. Ça se peut pas que dans un pays comme ici, puis ça déborde tellement des États-Unis, là, honnêtement, là, tout ça, c'est très... on est tellement teinté par la culture américaine puis la guerre culturelle qui se passe aux États-Unis, ça déborde chez nous, on se laisse influencer par ça, les politiciens s'accaparent ça parce que, ah oui, diviser pour mieux régner, comme je disais, tu sais, c'est comme on va rallier du monde, mais... Ah, je sais, non. En tout cas, pas moi. Et c'est ça, tu sais, j'en reviens pas que dans notre propre pays ou même dans notre propre province, nos concitoyens ne se sentent pas en sécurité. Puis qu'en plus, on met ce fardeau-là sur les enfants. C'est tellement un petit pourcentage, là. Puis ça me rappelle justement l'époque où est-ce que Pluton était en balance quand j'étais enfant. Bien, justement, c'était beaucoup l'époque 72 à 84, là, Pluton en balance, où est-ce que il y avait tout ce repositionnement-là par rapport au mariage, puis aux relations, puis c'est quoi d'être un homme, c'est quoi d'être une femme. Tu sais, c'est la première génération à connaître des divorces, des séparations. C'était beaucoup la liberté sexuelle. Ça avait commencé dans les années 70, mais là, c'était comme, c'était la promiscuité, puis c'était le début de l'émancipation des communautés gays et lesbiennes, justement, les années disco, Studio 54, tu sais, Saturday Night Fever, puis après ça, ben malheureusement, l'apparition du sida, c'est aussi l'époque où est-ce qu'on a vu aux États-Unis le premier homme politique et militant américain des droits des personnes homosexuelles à l'époque, comme je vous dis, là, tu sais, on revient de loin, là, il a fallu commencer par quelque chose, on a commencé par ça. Harvey Milk, qui a été le premier élu ouvertement homosexuel, d'ailleurs, il y a un excellent film sur lui qui s'appelle Milk, où est-ce qu'il est joué par Sean Penn. Sean Penn n'est pas gay, mais vraiment, il l'a tellement, tellement, tellement bien incarné. Milk, il est devenu le premier maire de San Francisco homosexuel. Puis je dis homosexuel, là, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il disait. Et le premier à se rendre au conseil des superviseurs de San Francisco. Alors, ça a été un pas de géant quand Pluton a été en balance, justement, pour la communauté LGBTQ. Ben, en fait, c'est ça. C'était LG. Dans le temps, c'était juste LG. Pas que, tu veux dire, on n'était vraiment pas rendu à ajouter aucune lettre, là. Et d'ailleurs, c'est super intéressant que quand il est rentré au pouvoir, Harvey Milk, quand il a réussi à accéder au pouvoir, le nœud nord était en balance, en conjonction avec Pluton, justement. Alors encore là, hein, on a une signature sur l'axe Bélier-Balance qui nous parle un peu de toutes ces histoires-là autour du genre et de la sexualité, puis comment qu'on définit les choses, puis c'est quoi être masculin, c'est quoi être féminin, c'est quoi Mars, Vénus, c'est quoi? Fait que c'est tout ça. Fait que j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, mais c'est certain que qu'est-ce qu'on voit là, c'est la suite des droits pour les communautés LGBTQ+, qui avaient pris naissance il y a plus de 40 ans et qui se poursuit aujourd'hui. Et comme je parlais justement avec la personne que je vous disais qui a fait son coming out quand elle était dans la cinquantaine, il est né lui et est devenu elle, en fait, une trans femme. Et cette superbe personne-là, ben c'est ça les discussions qu'on avait, c'est de dire juste le mot trans qui vient avec le mot transition. Ça représente tellement le passage d'une époque à une autre, tu sais. Quelque part, pour moi, les personnes trans ou non-binaires sont vraiment emblématiques de notre époque, qu'on passe d'un monde à un autre. Il y a des symboles dans tout, les amis, là. C'est précieux. C'est précieux. Justement, à l'époque d'Harvey Milk, on avait un peu les mêmes débats. C'est comme, on ne peut pas avoir un professeur gay parce que là, les élèves vont devenir gays. Mais non, là, ça ne marche pas comme ça. Puis tu sais, d'ailleurs, refouler quelque chose, ben il n'y a rien de pire. Là. Qu'est-ce que tu vas refouler? Va ressortir, va être projeté comme de la haine, comme un malaise, comme plein de choses. Fait que si on essaye d'étouffer un sujet, ça le rend encore plus fort. Fait que c'est complètement inutile, là, ces guerres-là, ces confrontations-là, au lieu d'être capable de discuter, de parler, tout ça, et d'échanger, on se fait hijacker par la politique, comme je disais. Il n'y en aura pas de facile, les amis. Il n'y en aura pas de facile. Mais c'est ça. Attendez-vous à ce que tout le long, Bélier Balance, ça va être là. Les droits individuels avec le Bélier, les questions de justice, les questions d'égalité, d'empowerment au féminin, au masculin, ou aucune de ces réponses, ou in between, ou peu importe, en dehors, en dedans, ça va être très, 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 très présent. Mais c'est surtout justement défendre les droits individuels. Alors, on n'a pas fini avec ces questions-là, on n'a pas fini. Et ça va se voir aussi dans d'autres domaines, que ce soit l'environnement ou ailleurs. Tu sais, ça va toucher là, des manifestations. Il va en avoir, on n'a pas fini. Mais comme je vous disais plus tôt, c'est sûr que ça a un but, tout ça. Alors, essayons de trouver un point d'équilibre, tout le monde, entre la balance et le bélier, entre les autres et le soi, défendre le vivre et laisser vivre et défendre le mieux vivre ensemble et vivre en société. On est condamné à vivre ensemble, les amis. Alors, vaut mieux s'apprivoiser, mettre de l'avant le respect et la tolérance, parce que c'est fatigant, chicaner tout le temps. Hein? Vous trouvez pas ça, vous autres? Moi, oui, en tout cas. Bref, il me semble que ça fait vraiment longtemps que je parle. Donc, voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute. On se revoit au mois prochain. Et je n'ai pas parlé de Samhain, je n'ai pas parlé de tout ça. Je vais possiblement vous faire un spécial d'Halloween que je ne vous dis pas encore c'est quoi. J'en avais fait un l'année dernière. C'était mes histoires personnelles surnaturelles qui avaient été faites avec beaucoup d'amour et que c'est basé, c'est toutes des histoires vraies, des choses qui me sont arrivées à moi. Alors, l'épisode s'appelle « Hors série, mes histoires surnaturelles ». Je l'avais sorti le 28 octobre 2022, l'année dernière. Alors, toujours d'actualité, si vous voulez écouter ça pendant le mois d'octobre, vous mettre dans le mood. Et je vous en prépare probablement un prochain, mais je ne vous en dis pas plus. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager, ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.